Marc, c'est l'évangile le plus concis des quatre. Pas besoin de paroles pour Marc, surtout de l'action. Les commentateurs aiment bien combler ce qu'ils croient être du vide par du matériel venu des autres évangiles. Aujourd'hui, nous allons nous demander ce que fait Jésus dans ce désert. Deux lignes chez Marc. Nous allons nous demander aussi ce que ça nous fait, à nous, d'être devant ce texte furtif. Nous pourrions combler ce minuscule récit par le matériel parallèle de l'évangile de Luc. Même circonstance, Jésus est baptisé et il est immédiatement expulsé dans le désert. Mais Luc raconte que le diable, après avoir tenté Jésus de plusieurs façons, s'éloigne de Jésus jusqu'au moment favorable, jusqu'au kairos en grec. Il s'agit du temps pour rencontrer la mort. Le diable, au moment favorable, c'est la même expression, investira Judas. Le diable, Judas, joue un rôle bien connu, celui d'auxiliaire du destin, en l'occurrence du destin de Jésus. Dans la Bible, c'est un schéma récurrent. Il y a une ligne névrotique de répétition perpétuelle et de recommencement. De temps en temps, le Dieu libre vient l'interrompre, cette ligne, en change le cours, la tour de Babel, l'esclavage en Égypte, les noces de Cana. C'est ce qu'on appelle la péripétie, qui est loin de n'être qu'une anecdote. Satan, le diable, Judas. C'est comme si ce qu'on pourrait appeler le destin était un personnage parfois caché, parfois figuré, de toutes les histoires. Le destin, comme dans toute tragédie, emploie des agents comme l'agent Smith dans le film The Matrix. Ici, c'est Satan et plus tard, ce sera Judas. Les biographies de Jésus, les quatre évangiles, ressemblent en effet à des tragédies dont le héros, le protagoniste, Jésus, est conduit inéluctablement vers la mort. Dieu viendra bouleverser le cours de la tragédie avec une ultime péripétie et c'est la leçon de Pâques. Non seulement la purification de la croix, mais aussi le brisement de la fatalité 3 jours plus tard. Cette leçon de Pâques, quand elle est mal apprise, permet au destin, un instant démantibulé, de se redéposer et à la tragédie de se réinstaller. Chez Marc, Satan ne se départit pas de ce rôle, mais dans notre texte, il n'est encore qu'un délégué à l'examen d'un candidat au ministère. Cet examen prend la forme d'une expulsion dans un désert, et ce pour une quarantaine. Mais ici, contrairement aux autres évangiles, il n'y a pas réellement de tentation. Chez Marc, il n'y a pas de jeûne, ni cette ironique « il eut faim » au bout de 40 jours, aucune tentation, mais finalement, bel et bien une épreuve qui est faite pour conditionner les actions futures du protagoniste qui devra se débattre contre ce qui est prescrit, il doit mourir, et aussi ne jamais cesser de croire en la péripétie, l'affirmation heureuse du destin. Continuons. Jésus passe cette épreuve au milieu des bêtes sauvages et des anges. Avec l'assistance des anges, dit-on, commente-t-on, en s'aidant d'un texte du premier livre des rois, où le prophète Élie reçoit de la nourriture de la part d'un ange. Cette façon de commenter m'a toujours intrigué. On parle d'un texte, d'un évangile qui déjà a la caractéristique de ne pas s'auto-commenter, qui en dit peu, un récit bref où des anges entourent quelqu'un qui vient d'être expulsé dans le désert par un souffle divin, ce qui est quand même loin de nos critères habituels. Et voilà qu'il est commenté que leur fonction à ces anges était de le nourrir. Nous voilà rassurés, tout s'explique. Comment les commentateurs commentent a toujours été pour moi une source de ravissement. J'aime bien observer ce passage, ce saut subliminal du registre poétique au registre matériel. À quoi bon pouvaient servir ces anges? Eh bien, voilà la réponse. Il fallait bien qu'il mange, Jésus. Le problème, en fait, n'est pas ce qu'ils commentent, les commentateurs, mais simplement leur besoin de combler le vide. Pour moi, ce que ce texte ne dit pas, il ne veut pas le dire. Non pas qu'il s'agisse d'un secret, mais il ne veut pas le dire sans doute pour une autre raison que nous allons peu à peu découvrir. Mais pour l'instant, nous devons continuer. Marc est le seul, en relatant cet épisode, à parler des bêtes sauvages. Et c'est là que nous retrouvons nos amis les commentateurs. Beaucoup d'entre eux utilisent la mention des bêtes sauvages pour évoquer le jardin d'Éden et aussi la prophétie d'Ésaïe qui transforme les carnivores en végétariens. Vous savez, le loup et l'agneau se nourriront ensemble. Pourquoi pas? Cela s'accorde bien avec le thème de la recréation évangélique. Mais pardonnez-moi pour cette remarque, dans le désert, il y a des bêtes sauvages. Pas forcément de grosses bêtes sauvages, mais beaucoup de bêtes sauvages. Des fourmis, des araignées, des coléoptères, des papillons et leurs prédateurs, les serpents, les scorpions, les caméléons, les tortues, les hérissons et aussi les fennecs. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des bêtes sauvages que cela veut dire le jardin d'Éden. Cette perspective, je le conviens, très ras de terre, pourrait être contrée, mais dans un débat imaginaire et de plus en plus surréaliste, par l'affirmation que dans le désert, il n'y a pas d'ange. Mais de cette affirmation négative, je n'ai aucune preuve. Je m'imagine que dans le désert, seul, en quarantaine comme Jésus, je pourrais rencontrer des anges qui, aujourd'hui, à l'expérience de 40 jours, non pas de solitude, mais d'isolement total dans un désert. Où va l'esprit quand il n'est plus contenu dans la maintenance des autres, quand il n'est plus soumis aux définitions des autres, à la loi des autres, à l'amour des autres, aux droits des autres, à la raison des autres? Le désert, dans ce texte, n'est pas le jardin d'Éden, ne serait-ce que parce que Jésus a été expulsé dans ce désert, et Adam et Ève ont été expulsés du jardin d'Éden. Associer ce désert et le jardin d'Éden serait une faute logique. Jésus, de ce jardin symbolique, il en sort. De son enfance, il sort. De sa jeunesse, de son baptême, il en vient. En cela, il pourrait être comparé au nouvel Adam, mais déjà expulsé de son jardin. Il vient de naître et il va grandir, apprendre. Dans les autres textes d'épreuve, ceux de Matthieu et Luc, Jésus n'est pas seul. Il est encombré. Mais de qui? Eh bien, en fait, de nous. De nous, de notre présence. Dans les autres textes, il y a un dialogue entre le diable et Jésus. Un dialogue, donc, du son. Et cette particularité fait que, en entendant ce dialogue, un dialogue très théâtral, nous nous approchons et finalement nous nous installons dans les gradins du récit, dans les gradins du récit, dans les gradins de cette représentation. Mais je dirais finalement, nous prenons place dans le cœur de cette tragédie et comme un cœur, nous commentons l'action en train de se dérouler. Oui, oui, il est l'Emmanuel parfait, le Dieu avec nous, qui est condamné à nous avoir toujours dans son sillage. Nous sommes un troupeau, un cœur, nous sommes son peuple exégétique, avide d'informations toujours plus pertinentes et aussi avec toujours quelque chose à dire et à commenter et à expliquer. Chez Marc, il n'y a pas de dialogue, pas de son. Jésus est seul avec sa conscience qu'on appellera ici Satan. Jésus est seul. J'ai envie de dire, enfin seul. Et nous, nous n'avons aucun accès au scénario de cette épreuve. Nous essayons de nous installer dans les gradins, mais c'est fermé. Nous prétendrions faire partie du cœur, peine perdue. Il n'y a pas d'embauche. Nous sommes maintenus à l'extérieur de ce récit qui est trop court, qui est trop loin, trop bizarre et trop vague. Si celui-ci est de Dieu, ou s'il est Dieu, il est ici le Dieu, pas avec nous. A-t-on déjà éprouvé la sensation d'un Dieu pas spécialement avec nous ? Pas la sensation d'un Dieu qui n'existe pas, ni d'un Dieu sans nous, mais d'un Dieu pas spécialement avec nous. Nous sommes, nous, éprouvés dans la méditation d'un Dieu présent, mais pas forcément attaché à nous, et donc nous, pas forcément attachés à lui comme un tout petit accroché aux jupes d'une mère alors toute puissante, comme si nous étions les esclaves d'un Dieu que nous aurions fait notre esclave. Avons-nous éprouvé la présence du Dieu pas spécialement avec nous pour que, sortis de cette épreuve, nous puissions goûter plus subtilement la saveur retrouvée de « avec nous » La saveur d'un Dieu qui reste libre de nous aimer, de nous voir quand nous sommes là, de nous entendre quand nous lui parlons, un Dieu que nous entendons quand il parle. Avons-nous passé cette épreuve qui nous dispensera de transformer cet « avec » subtil en un grossier « pour nous » Un Dieu pour nous, un Dieu que finalement nous nous serions offert, un Dieu que finalement nous aurions fait pour nous. Telle est pour moi la performance de Marc. Par un effet de miroir bouleversant, face à ce texte, je passe la même épreuve que Jésus. Jésus est seul dans ce désert, et moi, ne pouvant le rejoindre, je suis seul aussi. Le texte m'interdit d'entrer dans son sanctuaire, de comprendre ce qu'il s'y passe. Je contemple donc le Fils bien-aimé de Dieu seul au milieu de la création. Jésus est avec Satan, avec les bêtes sauvages et les anges, mais il n'est pas avec moi et il n'est pas dit que Dieu était spécialement avec lui. Si je contemple ce texte, si je le lis intensément, je suis bloqué à la frontière de ce désert. Je reste comme plaqué sur les parois de ces bulles étranges qui parfois encloisonnent des villages américains dans des films de science-fiction. Il parle, peut-être, mais je n'entends rien. Je crie, j'appelle, mais il n'entend pas. Ce Fils de Dieu, ce nouveau Dieu, en compagnie des bêtes sauvages et des anges, m'est inaccessible. Je suis comme lui, mais sans lui, au milieu des bêtes sauvages et des anges, dans un univers qui me comprend, puisque j'en fais partie, mais que je ne comprends pas. C'est véritablement une épreuve. Une épreuve qui m'immunisera à jamais de l'illusion de posséder la moindre parcelle de ce Dieu, ne serait-ce peut-être que parce que je ne peux pas posséder ce dont je fais partie. C'est une épreuve de maturité. C'est une épreuve que de lire ces quelques mots de Marc. Alors que je commençais à comprendre que la réception de ces textes bibliques devrait être aussi des expériences de vie, d'autres commentaires me sont venus à l'esprit. Marc décrirait ici l'éternelle hésitation de l'humain entre le type de la bête sauvage et celui de l'ange. Peut-être, mais alors, au milieu de cette épreuve, qu'il se découvre humain et qu'il réfléchisse bien à ce mot humain. Qui lui a dit qu'il était humain? Les anges? Les bêtes sauvages? Satan? Lui-même? Et si ce n'était pas prescrit? Et s'il était mis en demeure cet homme, ce héros, ce protagoniste seul au milieu des bêtes sauvages et de la création, de construire son humanité? Le mot « humain » étant juste un point, un son de départ, mais qu'il s'agit sans doute de constituer, d'harmoniser. Cette épreuve effrayante, d'une grande densité bien plus dense que les joutes oratoires qui se déploient chez Matthieu ou chez Luc, suit immédiatement, vous le savez, son baptême par Jean. Jésus quitte le groupe de Jean et imprime une autre nuance qui sera une ligne de fracture pour la suite. Le règne de Dieu n'est pas seulement proche dans le temps, il ne va pas simplement agiter les vierges folles ou sages que nous sommes, mais ce règne est proche dans l'espace, ce que cette épreuve dans ce désert nous permet de comprendre de façon intense. Dans ce désert, devenez humain. Laissez-vous tenter par une expérience étonnante. Passez 40 jours d'isolement total dans le désert. Abandonnez tous les commentaires préalables et toutes les prescriptions qui disent que l'existence n'est qu'une tragédie. Les bêtes sauvages et les anges se chargeront de vous inspirer dans la construction de votre humanité. Et le reste, tout le reste, 40 jours et 40 nuits de débats avec votre conscience, débats que personne d'autre que vous n'aura vécu, peut-être même que Dieu ne les aura pas entendus, eh bien tout cela vous permettra de saisir que le règne de Dieu est déjà votre demeure. Amen.